Radio Prague, les informations. Bonjour, le taux de chômage en juin a été le plus faible en République tchèque depuis près de 3 ans. La République tchèque fait partie des 10 pays les plus attractifs au monde pour les investissements étrangers. Et enfin en football, Pavel Nedvěd a décidé de poursuivre sa carrière à la Juventus de Turin. Le taux de chômage s'est élevé à 6,3% en juin en République tchèque, soit une baisse d'un dixième de point par rapport au mois de mai et de 1,4 point par rapport à juin 2006. Il s'agit également du taux le plus faible depuis juillet 2004, un peu plus de 346 000 personnes se trouvant sans emploi. Ces chiffres ont été publiés ce mercredi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Selon les analystes, le nombre de chômeurs tend à diminuer du fait du dynamisme de la croissance économique du pays. C'est à Prague que le taux de chômage est le plus faible, puisqu'il ne représente que 2,4% de la population active. En revanche, les régions des villes de Most, en Bohême du Nord, et de Karvina, en Moravie du Nord, sont les plus touchées avec des taux respectifs de 17,4% et de 15%. De nouveaux cas de grippe aviaire ont été dépistés dans des fermes distantes de 3 km dans les environs du village de Norgine en Bohême de l'Est. L'information a été communiquée mercredi par l'administration vétérinaire tchèque. Le virus avait déjà été détecté dans la région à la fin du mois de juin. Cette fois, la grippe aviaire frappe 2 élevages de respectivement 17 000 et 54 000 volailles. Pour l'instant, seule la présence du virus de type H5 a été établie, celle du H5N1, susceptible d'être dangereuse pour l'homme, étant en cours d'analyse. La République tchèque fait partie des 10 pays jugés les plus attractifs au monde pour la réalisation d'investissements étrangers directs. Si à l'échelle mondiale, la République tchèque partage les 9e et 10e places avec le Brésil, loin derrière le leader chinois, au niveau européen, elle se classe en 3e position derrière l'Allemagne et la Pologne. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent de la dernière étude réalisée par Ernst & Young, cabinet spécialisé en audit, droit et finances. En 2006, pas moins de 176 projets d'investissement se sont concrétisés en République tchèque par l'intermédiaire de l'agence Czech Invest pour un montant total record avoisinant les 115 milliards de couronnes, soit un peu plus de 4 milliards d'euros. En football, Pavel Nedvěd a finalement trouvé un accord avec la Juventus de Turin et poursuivra donc bien sa carrière la saison prochaine. Après avoir aidé le prestigieux club italien à retrouver la Serie A, l'ancien capitaine de l'équipe nationale tchèque avait un temps envisagé de raccrocher les crampons, pas satisfait par les conditions financières proposées par les dirigeants de la Juve. Finalement, Pavel Nedvěd, élu Ballon d'Or en 2003, a annoncé que les deux parties étaient parvenues à un compromis. Météo, la grisaille et le parapluie restent de mise avec quelques averses passagères sur l'ensemble du territoire jeudi, jour de la fête des Borgèques. Les températures restent légèrement inférieures aux normales saisonnières et se situent entre 16 et 20 degrés pour les maximales. Une première amélioration est prévue pour vendredi avant le grand retour du soleil et de l'été ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
L'actualité tchèque dans notre magazine débutera par les reproches de l'Union européenne à l'égard du déficit budgétaire de la République tchèque. Alain Kubišta vous présentera l'affaire d'une sénatrice qui aurait dû faire attention à ce qu'elle disait à propos des Roms. Jarka Gisubelova vous présentera l'aide tchèque au Chili suite à un incendie causé involontairement par un touriste tchèque dans un parc naturel national en Patagonie. Anne-Claire Veluire, elle, s'est rendue sur la place de la vieille ville de Prague où se déroule un festival de jazz pas comme les autres. Toute la rédaction vous souhaite une agréable réception de cette émission. Le quotidien économique tchèque Hospodářské noviny est le plus virulent en ce qui concerne la critique de l'état de l'économie tchèque par l'Union européenne. Il titre « La Tchéquie présente la plus mauvaise économie de toute l'Union ». En est-il vraiment ainsi? Le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, a vraiment fait figure de brebis galeuse lundi à la réunion des chefs des finances des pays de l'Union européenne à Bruxelles. Aucun autre de ses collègues n'a été autant critiqué. Pourquoi l'économie tchèque est-elle tant critiquée alors que la Hongrie, par exemple, affiche un déficit budgétaire bien plus important ? Bruxelles reproche à Prague surtout de ne pas avoir mis à profit la période de prospérité récente pour mettre de l'ordre dans les finances de l'État et pour réaliser des réformes de la sécurité sociale, de la santé et des retraites indispensables pour le bon fonctionnement de l'économie tchèque. L'Union européenne reproche aussi à la Tchéquie de ne pas avoir utilisé les recettes résultant de la croissance économique pour combler le déficit et de les avoir dépensées à d'autres fins. Et le plus important est la critique de Bruxelles concernant le programme de convergence. Les politiciens tchèques n'ont pas respecté leurs engagements de diminuer l'endettement de l'État. En effet, le déficit budgétaire ne devait pas dépasser les 3,3%, alors que cette année, il sera de plus de 4% du produit intérieur brut. La Hongrie affiche certes un déficit plus important, dans les 6,5%, mais à la différence de la Tchéquie, elle accomplit exactement ce qu'elle a promis à l'Union européenne et applique de rigoureuses réformes. Pour cela, elle a été moins critiquée que la République tchèque. Et le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, il a levé la main à Bruxelles pour reconnaître que la critique était raisonnable, en précisant pourtant. La formulation employée me fait certes plaisir, mais en réalité c'est beaucoup plus simple. Si le projet gouvernemental est adopté, il sera possible d'élaborer un budget déficitaire de moins de 3%, ou bien il ne sera pas adopté et ce ne sera pas possible. L'Union européenne n'a pas exprimé que des critiques. Pour la première fois, elle a aussi soutenu des réformes que le gouvernement de Mirek Topolánek tente d'imposer au Parlement. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Peter Nečas, s'attendait à une telle critique, mais il affirme aussi qu'il est possible de réduire le déficit budgétaire en dessous de 3%. C'est possible, seulement si le projet gouvernemental de stabilisation des finances publiques est adopté. La position de l'Union européenne n'est pas une grande surprise. Elle démontre que ceux qui affirment que les réformes ne sont pas indispensables se trompent profondément. Il est bon de rappeler à ce propos que les pays qui ont déjà adopté l'euro se sont engagés à avoir des budgets équilibrés d'ici à 2010. Si la Tchéquie veut faire partie de la zone euro en 2010 justement, elle doit absolument équilibrer son budget. Des mots clairs, crus, sans embâge, exprimant la haine des Roms, ce sont ceux d'une sénatrice tchèque dont les paroles enregistrées, il y a un an, ont été rendues publiques sur le site de l'association Romea. Plus d'informations avec Anna Kubišta.
Décomplexé, c'est le mot qui vient à l'esprit à l'écoute de l'enregistrement rendu public par l'association Romea, mettant en cause la sénatrice Elena Janáčková. L'actuelle maire d'un arrondissement de la ville d'Ostrava, dans la région de Moravie-Silésie, s'exprimait à l'occasion d'une discussion publique du syndic d'habitation le 15 août 2006, au cours de laquelle il était question de la problématique d'une localité, Bedřiška, majoritairement habitée par des populations roms. L'enregistrement, apparemment réalisé par un des participants à cette discussion, est de mauvaise qualité, mais les paroles ne laissent guère de doute.
Je vais vous dire une chose, je ne suis pas d'accord avec une quelconque forme d'intégration. Malheureusement, je suis raciste. Je n'approuve pas l'intégration des tziganes et qu'ils se retrouvent répartis sur toute la surface de la circonscription. Malheureusement, nous avons choisi Bedřiška et donc c'est là qu'ils vont se retrouver avec une clôture et de l'électricité. Ça m'est égal. Ça ne me pose pas de problème de le crier à haute voix dans le monde entier.
Clôture électrifiée, vocation de dynamitage, comme le note ce mercredi le quotidien Ledovene Ovene, il s'agit sans doute de la plus violente attaque contre la communauté rome de la part d'un parlementaire tchèque depuis l'existence du parti d'extrême droite de Miroslav Sládek. L'association Romea a reçu l'enregistrement de l'ancien maire de la circonscription, Radomir Michniak. Celui-ci explique qu'il a trouvé dans sa boîte aux lettres la semaine passée. Il récuse toute signification politique et affirme s'être comporté de manière citoyenne. Ce n'est pas la première fois que Liana Janáčková, membre du comité sénatorial pour l'éducation, la science, la culture et les droits de l'homme, se distingue par une critique violente des Roms. À l'automne 1997, elle avait proposé de fournir une subvention aux Roms qui souhaiteraient émigrer au Canada. La sénatrice qui précise qu'elle n'a pas entendu l'enregistrement dénonce une manipulation politique de la part de son prédécesseur. Elle explique que ses paroles ont été diffusées hors contexte et refuse l'accusation de racisme exprimée notamment par la Ligue contre l'antisémitisme. D'après Lidová Novené, Janáčková est une politicienne très populaire à Ostrava. Le quotidien cite cependant un représentant local d'une association rome, Josef Stojka, qui serait convaincu de l'arrière-plan politique de l'enregistrement. D'après lui, Liana Janáčková ne serait pas raciste, rappelant son soutien à un tournoi de football contre la toxicomanie et le racisme. En attendant, plusieurs associations roms envisagent de porter plainte contre la sénatrice. Le président du Sénat, Přemysl Sobotka, a déclaré qu'il voudrait d'abord entendre la version des faits de Liana Janáčková. Si une plainte est déposée, ce n'est qu'à ce moment-là que l'affaire serait reprise par le comité chargé de l'immunité et des mandats sénatoriaux, a-t-il expliqué.
Le 17 février 2005, Jiří Šmiták, un touriste tchèque, avait causé par son imprudence un incendie qui avait ravagé 7% de la superficie du parc naturel d'El Plaine au Chili, qui fait partie de la réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Plus de 800 pompiers avaient été déployés et 2 600 000 dollars dépensés pour éteindre l'incendie dévastateur. Jarka Gisubelova.
À l'origine de la catastrophe, un réchaud à essence qui s'était renversé sur l'herbe sèche alors que le touriste préparait une soupe. Le vent avait vite propagé l'incendie qui avait ravagé 16 000 hectares du parc, dont 400 hectares de forêt. Après être allé lui-même chercher de l'aide, le touriste avait été arrêté puis remis en liberté contre une amende maximale de 200 dollars. Comme il l'a dit, l'accident a bouleversé sa vie. Il a exprimé ses plus profonds regrets aux Chiliens pour les dommages causés et le gouvernement tchèque l'a soutenu. Le chef de la diplomatie d'alors, Cyril Svoboda, avait immédiatement promis une aide au Chili. La Tchéquie versera plus de 15 millions de couronnes pour le renouveau du parc et son aide se poursuivra jusqu'en 2010. Des dizaines de spécialistes et forestiers envoyés dans la région ont créé une pépinière et des serres à Puerto Natal. Les premiers arbres destinés à la reforestation des zones ravagées du parc y poussent déjà. Pour le touriste imprudent, l'affaire s'est terminée par une amende. La partie chilienne n'a finalement pas porté plainte. Il est probable que l'aide apportée par l'État tchèque a joué un rôle, estime Imri Kliment, conseiller de l'ambassade tchèque à Santiago du Chili. D'autre part, il n'existe aucun engagement rendant l'État tchèque responsable des dommages causés à l'étranger par ses citoyens, indique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'aide apportée par Prague est l'expression de sa volonté de conserver de bonnes relations avec le Chili. Personne ne peut compter automatiquement sur une aide de l'État en cas d'accident de ce genre. En effet, les statistiques portant sur les difficultés rencontrées par les Tchèques voyageant à l'étranger accusent une tendance croissante. L'année dernière, ils ont été un millier à être interpellés par la police en dehors de leur pays. Une majorité d'entre eux a participé à des trafics et pas nécessairement de drogue. La plus médiatisée était l'affaire de deux Tchèques arrêtés en Nouvelle-Zélande pour voler et contrebande d'orchidées.
Mardi 10 juillet à Prague, la place de la Vieille Ville a accueilli la deuxième édition du festival de jazz en bohème Bissner Urquell. Sponsorisé par la célèbre marque de bière tchèque, il est organisé par Rudy Linka, grand guitariste de jazz exilé en Suède, puis aux États-Unis depuis 1981. Fort de ses nombreuses amitiés dans le milieu du jazz, il a réussi à faire traverser l'Atlantique aux stars américaines, Kenny Garrett, Dave Holland et Al Foster. Anne-Claire Veluir est allée faire un tour vers la grande scène installée devant Notre-Dame du Tine et a recueilli les propos de Rudy Linka.
Les brochures touristiques ne cessent de vanter le nombre et la qualité des clubs de jazz de la capitale tchèque. Il faut néanmoins reconnaître que ces clubs sont principalement fréquentés par des étrangers. Pour autant, le public pragois a prouvé son goût pour ce style musical en se déplaçant en masse pour assister au premier concert de la deuxième édition du Festival de jazz en Bohême. Le programme du festival est très riche. Il accueille une dizaine de groupes venus des États-Unis, d'Allemagne, d'Autriche, de Suède et de Cuba. Mais surtout, trois musiciens de légende se sont déplacés. Le saxophoniste Kenny Garrett, le contrebassiste Dave Holland et le batteur Al Foster qui ont tous les trois joué aux côtés de Miles Davis. Rudy Linka, l'organisateur de ce festival, jouit aussi d'une renommée importante dans le milieu du jazz. En 1981, à l'âge de 19 ans, il quitte la Tchécoslovaquie pour étudier à l'Institut de musique de Stockholm. puis il s'établit en 1985 aux États-Unis, où il se fait un nom grâce à son talent de guitariste. Il nous explique pourquoi il a voulu organiser ce festival dans son pays d'origine.
L'idée de faire un festival sur cette place m'est venue à l'esprit à partir du moment où je suis revenu de temps en temps ici. J'habite en fait aux États-Unis et plus précisément à New York. Quand je suis revenu dans cette ville, Prague, où je suis né, je me suis dit que cette ville est incroyablement belle, mais il m'a semblé qu'elle vit dans le passé avec Vivaldi ou Mozart. Il ne se passe pas grand-chose musicalement. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté et les touristes se promènent et vont voir ces concerts de Beethoven, Bach ou Brahms. C'est de la belle musique, mais j'ai pensé que ce serait quelque chose de merveilleux si on faisait quelque chose de contemporain, quelque chose qui se fait dans le monde actuellement. Et en plus de ça, qui a lieu sur cette place historique de la vieille ville. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ce festival de jazz en Bohème, Pilsner Urquell.
Rudy Linka fréquente depuis plus de 20 ans le milieu jazz new-yorkais et c'est donc assez facilement qu'il a réussi à convaincre ses amis musiciens de le suivre dans son pays natal. La création de ce festival revêt aussi un caractère personnel et émotionnel que Rudy Linka nous confie.
J'ai connu cette expérience d'avoir quitté mon pays, mais je ne veux pas revenir dans mon pays. Ma vie est ailleurs. Je suis parti quand j'avais 19 ans et j'ai maintenant 47 ans et je vis à New York. Mais le fait que je vienne faire ici ce festival alors que je suis parti, cela remplit quelque chose. Je peux apporter mon expérience et c'est comme un nouveau départ.
Au sein de cette programmation internationale, Rudy Linka donne aussi leur chance à des groupes tchèques, notamment à son ami Stepan Markovic et les musiciens de Guločar, avec qui il a joué plusieurs fois. Enfin, Rudy Linka se produira lui-même sur la place de la vieille ville à Prague et à České Budějovice. Le festival se déplace aussi à Plzeň et à Prachatice. Le programme détaillé est consultable sur www.bohemiajazzfest.cz.
Nous vous avons proposé le gros de l'actualité dans notre magazine Faits et événements. Place maintenant à l'histoire sur les ondes de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Ce qui nous paraît aujourd'hui impensable était pourtant la réalité de tous les jours des Tchèques pendant plus de 40 ans jusqu'en 1989, l'impossibilité de voyager à l'étranger. 18 ans après la révolution de velours, une première étude de l'une des caractéristiques du régime communiste, la fermeture des frontières et l'absence totale de liberté de circulation vient d'être publiée par l'Institut d'histoire moderne. L'occasion de se pencher dans cette page d'histoire sur cette période d'interdiction et de limitation. Très bonne écoute à toutes et à tous.
Krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé.
La libre circulation des personnes, la possibilité de se rendre où on veut et quand on veut, avec sa seule carte d'identité, si on ne dépasse pas les frontières de l'Europe, on s'y est si vite habitué que la situation d'avant 89 paraît comme un cauchemar peu vraisemblable. À la veille de l'intégration de l'espace Schengen et de l'abolition des contrôles terrestres et aériens. Vouloir voyager à l'étranger il y a 30 ans, cela signifie se soumettre à des procédures injurieuses avec un résultat incertain. Il fallait une vjezdní doložka, terme intraduisible, puisque n'ayant pas d'équivalent dans les langues des pays démocratiques, sorte d'autorisation de voyager délivrée par les autorités à quelques rares élus après des vérifications politiques. Il y a 50 ans, il n'a pas du tout été possible de se rendre en voyage individuel et privé. Le titre de la publication dont il est question aujourd'hui, « Voyager au temps de la monarchie habsbourgeoise et en Tchécoslovaquie », n'était pas choisi au hasard. Un rappel historique est utile pour que le lecteur qui n'a pas vécu le régime communiste ne soit pas étonné de ce qu'après son arrivée au pouvoir en 1948, ce régime est revenu à la situation d'avant l'abolition de la corvée, donc avant l'année 1781. Il n'est pas sans intérêt non plus de noter que le principe actuel de libre circulation des personnes dans le cadre de l'Union européenne et notamment de son espace Schengen a eu un précurseur en Autriche-Hongrie dans la moitié du XIXe siècle. Ainsi, en 1860, après la naissance de la monarchie constitutionnelle en Autriche, ses résidents, dont les Tchèques et les Slovaques, avaient le droit à un passeport, les autorisant à voyager sans limitation quelconque à l'étranger. Pour se rendre en Allemagne voisine, ils n'avaient même pas besoin de passeport. Une pratique similaire existait partout dans l'Europe du XIXe siècle, à l'exception de l'Empire ottoman et de la Russie tsariste.
Pevný je stůl, pevnější je hora.
Pevný je stůl, pevnější je hora.
Co je nejpevnější?
Co je nejpevnější?
Ta člověčí.
Mais revenons à la situation en Tchécoslovaquie après le putsch communiste de 1948. Grâce aux documents sortis des archives, il est possible d'établir la date et même l'heure exacte de la publication du premier ordre spécial donné par le ministère de l'Intérieur au corps de sécurité nationale d'alors. C'était le 23 février 1948, à 2h du matin, lorsque les autorités communistes ont interdit les voyages à l'étranger aux personnes qui n'était pas muni d'une clause spéciale. Tout au long des années 50, la frontière de la Tchécoslovaquie était hermétiquement fermée. La possibilité d'entreprendre des voyages privés a cessé d'exister et la frontière est restée fermée même dans le sens inverse. Tous les ressortissants étrangers souhaitant se rendre en Tchécoslovaquie avaient besoin de visa, à une exception près, les titulaires de passeports diplomatiques bulgares et polonais. L'année 1963 marque le début d'une libéralisation progressive des voyages à l'étranger. Au fur et à mesure, l'obligation des visas était supprimée pour les voyages dans les pays du bloc soviétique. De fortes limitations ont toutefois été imposées pour les voyages en Occident. Hormis les raisons politiques, un autre obstacle d'ordre économique est apparu, le manque de devises étrangères. Ainsi, la première condition pour pouvoir se rendre dans l'Occident capitaliste était l'attribution de ladite allocation de devises, son montant étant toutefois limité à l'équivalent de 100 dollars. La courte période de détente politique avant l'année 1968 était favorable à l'idée de munir tous les citoyens tchécoslovaques d'un passeport. L'écrasement du printemps de Prague et la normalisation imposée par Gustav Husák a mis fin à ce rêve. Dans les années 70, les voyages dans les pays socialistes sont devenus relativement faciles, contrairement à ceux en Occident. Craignant des départs massifs de ses citoyens, le régime a limité au plus bas niveau les voyages en Occident et rendu impossibles les voyages de familles entières et des deux époux à la fois. Un chapitre à part, les voyages dits de service des chefs d'entreprise du commerce extérieur, ceux-ci étant en majeure partie des agents de la STB ou ses collaborateurs qui, à leur retour, devaient établir des rapports sur la vie pourrie en Occident, éventuellement sur les activités des dissidents émigrés. Une certaine libéralisation s'est produite à la fin des années 80. Ainsi, la possibilité de voyager à l'étranger s'est ouverte, dans une certaine mesure, pour les personnes bénéficiant d'une invitation de l'étranger, y compris les garanties de ce que leurs frais de voyage seraient remboursés par la personne qui les invitait. L'obligation de demander l'autorisation de voyager, la fameuse Vyazhny Doloshka, dépendant uniquement de critères politiques et de la recommandation de l'employeur, est toutefois restée en vigueur jusqu'à la chute du régime. C'est le 4 décembre 1989, une date historique, celle de l'ouverture des frontières tchécoslovaques et de la suppression définitive de toutes les limitations en vigueur depuis plus de 40 ans.
Mocná je zbraň, mocnější je právo.
Mocná je zbraň, mocnější je právo.
Co je nejmocnější?
Co je nejmocnější?
Pravdo mluvné slovo.
C'est tout dans cette page d'histoire. Merci d'être resté à l'écoute. La prochaine édition de cette rubrique dans 8 jours, même heure, même fréquence.
Krásný je vzduch, krásnější je moře.
Il est vraiment temps de nous quitter car c'est la fin de cette émission. Pourtant, nous vous invitons à l'écoute, mais en horaire et même fréquence, et toujours sur Radio Prague.
Usměvavé tváře, co je nejkrásnější?
Co je nejkrásnější?
Usměvavé tváře, pevný je stůl, pevnější je hora.
Co je nejpevnější,
co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější,
co je nejpevnější,
ta člověčí víra.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.